Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série qui consiste à apprendre de mieux comprendre tout ce qui concerne Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais je me dois de tout d'abord, avant de commencer, de faire une petite prière me concernant personnellement pour cette étude pas très facile. Dieu trois fois saint, Adonai, je vous demande de m'aider et de permettre que votre Fils adoré veuille bien m'aider tout au long de cette étude et de permettre que le Saint-Esprit puisse s'emparer de ma langue, de mon être tout entier, de m'inspirer et que je puisse aller jusqu'au bout sans problème, avec la profonde conviction de cœur et d'esprit et de mon âme pour délivrer ce message. Je vous remercie du fond de mon cœur. Amen. Amen. Chers amis, les titres de cette étude seront concernant l'incarnation, premièrement, et deuxièmement, l'importance du Saint-Esprit. Que faut-il penser de l'incarnation? Le Nouveau Testament n'encourage pas à nous tourmenter pour trouver des solutions aux problèmes physiques et psychologiques qu'elle pose, mais il nous encourage bien plutôt à adorer Dieu pour l'amour qu'il nous a ainsi manifesté, car l'incarnation fut un grand acte d'humilité et d'abaissement. Tout en étant Dieu, eh bien oui, c'est ce que a écrit l'apôtre Paul, il, le Christ, n'a pas cherché à faire valoir ses droits divins, mais il a quitté son pouvoir et sa gloire pour prendre la forme d'un esclave en devenant semblable aux hommes. Et il s'est même humilié davantage en allant jusqu'à mourir comme un criminel sur une croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Et tout cela pour notre salut. Certains théologiens ont suggéré qu'au départ, le but de l'incarnation avait été d'amener la création à la perfection et que ce n'était qu'après coup, si l'on peut dire ainsi, que l'idée était venue à Dieu de lui donner une portée rédemptrice. Or, le Nouveau Testament ignore toute idée d'incarnation dissociée de l'idée de rédemption. Ce n'est pas Bethléem, mais le calvaire qui est au cœur de la révélation. Toute interprétation du christianisme qui méconnaît ou qui nie cette vérité le dénature en faussant la perspective. Si la crèche de Bethléem a une importance aussi décisive, c'est parce qu'elle se place dans la succession d'abaissements qui devait conduire le Fils de Dieu à la croix du calvaire. Maintenant, il est clair que nous ne pouvons prendre conscience de cela qu'en replaçant l'événement dans son contexte. Et c'est pourquoi le texte clé du Nouveau Testament, celui qui aide vraiment à comprendre l'incarnation, n'est pas la simple déclaration de saint Jean. La parole a été faite chair, a-t-il dit, et elle a habité parmi nous. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Mais bien ce passage plus explicite de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, et cela afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Ce passage ne se contente pas d'affirmer la réalité de l'incarnation, mais il en donne également la signification et la façon dont l'incarnation nous est ici présentée, et elle nous invite à ne pas y voir seulement une merveille de la nature, mais bien plutôt un miracle de la grâce. Il serait donc bon de nous arrêter ici un instant pour examiner les différentes interprétations qui ont été données au texte de l'apôtre Paul que nous venons de citer. Au verset 7 du deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, l'expression que la version seconde traduit par « il s'est dépouillé lui-même » signifie littéralement « il s'est vidé lui-même ». Ceci joint à l'affirmation de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, selon laquelle « Jésus s'est fait pauvre, ne nous éclaire-t-il pas ?» Ce n'est là qu'une question, évidemment, sur la véritable nature de l'incarnation. Ces versets ne laissent-ils pas entendre que le fait de devenir homme a impliqué pour le Fils un amoindrissement de sa divinité? C'est là ce que l'on appelle la théorie de la kénose, kénosis, signifiant en grec « vidé ». Elle repose sur l'idée que pour être pleinement homme, le Fils a dû renoncer à certains de ses attributs divins qui l'auraient empêché de connaître et de partager les limitations inhérentes à la nature humaine, limitations dans l'espace pour commencer, dans le temps et ensuite dans la connaissance et dans la conscience. Et cette théorie a connu diverses formulations. Mais la théorie de la kénose ne résiste pas à l'examen, car d'abord, ce n'est qu'une spéculation qui ne trouve pas la moindre confirmation dans les textes cités pour l'étayer. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul dit que le Fils s'est dépouillé lui-même et qu'il s'est fait pauvre, il ne pense pas, et le contexte le démontre dans les deux cas, à l'abandon des attributs et des pouvoirs divins, mais à l'abandon de la gloire et de la dignité divine. La gloire que j'avais auprès de toi, mon Père, avant que le monde fût. Et cela pour reprendre les mots employés par le Christ lui-même dans sa grande prière sacerdotale, Saint Jean chapitre 17, verset 5. Les versions second et la Tobe traduisent tout à fait correctement la pensée de l'apôtre Paul de Philippiens chapitre 2, verset 7, à cet égard. L'idée selon laquelle le Fils se serait dépouillé d'un quelconque attribut de la divinité n'a aucun support scripturaire. De plus, cette théorie soulève des difficultés considérables, voire insolubles. Comment peut-on dire que l'homme Jésus-Christ était pleinement Dieu s'il lui manquait certaines qualités divines? Comment peut-on dire qu'il révélait parfaitement le Père si certains des pouvoirs et des attributs du Père n'étaient pas en lui? De plus, si comme cette théorie le suppose, une authentique humanité était incompatible sur terre avec une divinité inaltérée, on peut raisonnablement penser qu'il devrait en être de même dans les cieux. Il s'ensuit donc que l'homme glorifié a perdu quelque chose de ses pouvoirs divins, et ce pour l'éternité. Si comme le dit l'article 2 de la Confession de l'Église anglicane, lors de l'incarnation, la divinité et l'humanité furent unies en une seule personne à jamais indivisible, il faut alors reconnaître, si l'on s'en tient à la théorie de la kénose, que lors de l'incarnation, la divinité du Fils a été dépossédée de certains attributs divins à jamais perdus. Pourtant, le Nouveau Testament est, on ne peut être plus clair et catégorique sur ce point. Le Christ ressuscité est à la fois omnipotent, omniprésent et omniscient. Saint Matthieu chapitre 28 versets 18 et 20. Saint Jean chapitre 21 verset 17. Et vous pouvez noter Éphésiens chapitre 4 verset 10. Maintenant, si devant de tels arguments, les partisans de la théorie de la kénose se voient contraints de reconnaître que dans les cieux, ces attributs divins ne sont nullement incompatibles avec une véritable humanité du Christ, quelle raison leur reste-t-il alors de croire qu'une telle incompatibilité a existé sur la terre? Le Christ a affirmé en termes très clairs et sans appel que tout son enseignement lui venait de Dieu et que lui-même n'était que le messager de son Père. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Saint Jean chapitre 7 verset 16, chapitre 8 verset 28 et le chapitre 12 verset 49. Il déclare être lui-même l'homme qui vous a dit la vérité comme il l'a entendu de Dieu son Père. Saint Jean, chapitre 8, verset 40. Devant de telles déclarations, il n'y a guère que deux attitudes possibles. Ou bien accepter et reconnaître alors à tout l'enseignement de Jésus-Christ, y compris à ses déclarations relatives à l'inspiration et à l'autorité de l'Ancien Testament, une pleine et entière autorité divine, ou bien les rejeter et remettre ainsi en question l'autorité divine de tout son enseignement. En fait, les récits évangéliques eux-mêmes s'inscrivent en faux contre la théorie de la kénose. Il est exact que Jésus-Christ avait parfois une connaissance limitée des choses humaines et divines. Il lui arrivait par exemple de poser des questions. Qui a touché mes vêtements? Ou combien avez-vous de pain? Saint Marc chapitre 5 verset 30 et Saint Marc chapitre 6 verset 38. Il reconnaît de ignorer comme les anges le jour fixé pour son retour, Saint Marc chapitre 13 verset 32. Mais en d'autres occasions, il fait montre d'une connaissance surnaturelle. Ainsi, par exemple, il connaît le passé trouble de la femme samaritaine, Saint Jean chapitre 4 verset 17. Lorsque l'apôtre Pierre va pêcher, il sait que le premier poisson qu'il attrapera aura une pièce de monnaie dans la bouche. Saint Matthieu, chapitre 17, verset 27. Il sait, sans que personne ne le lui ait dit, que Lazare est mort. Saint Jean, chapitre 11, verset 11. De même, il manifeste de temps à autre un pouvoir surnaturel en faisant des miracles. Il guérit des malades, nourrit des foules et ressuscite des morts. Les évangiles nous donnent l'impression que Jésus n'était pas entièrement dépourvu de cette connaissance et de cette puissance qui appartiennent à Dieu. Il y avait même recours de temps à autre, tout en préférant le plus souvent éviter d'avoir à le faire. En d'autres termes, l'impression qui se dégage n'est pas tant celle d'une divinité appauvrie que celle d'une puissance divine volontairement maîtrisée et retenue, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors comprenons bien cela. Comment expliquer cette retenue? Oui, comment l'expliquer? Sans aucun doute, comme ne cesse de le rappeler l'évangile de Saint Jean, en particulier en raison de l'entière soumission du Fils à la volonté du Père. L'une des choses que l'on sait du mystère révélé de la divinité, c'est que les trois personnes qui s'y trouvent réunies entretiennent les unes vis-à-vis des autres, des rapports bien déterminés. Dans les évangiles, le Fils n'apparaît pas comme un être divin indépendant, mais comme quelqu'un de dépendant qui, en toute occasion, ne pense et n'agit qu'en fonction des directives du Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Saint Jean chapitre 5, versets 19 et 30. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Saint Jean chapitre 6, verset 38. Je ne fais rien de moi-même. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Saint Jean chapitre 8, verset 28. Il est donc dans la nature de la deuxième personne de la Trinité de reconnaître l'autorité de la première personne et de se soumettre à son bon plaisir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ déclare qu'il est lui-même le Fils et que la première personne n'est autre que son Père, bien qu'égal au Père en puissance, en gloire et en éternité. C'est pour lui chose naturelle que de jouer le rôle du Fils et de trouver sa joie dans l'accomplissement de la volonté de son Père, tout comme il est naturel que la responsabilité de concevoir et d'entreprendre les œuvres divines reviennent à la première personne de la Trinité et naturel encore que la troisième personne procède du Père et du Fils pour exécuter les ordres qui lui intiment en accord l'un avec l'autre. L'obéissance du Dieu-homme au Père durant son séjour sur la terre n'était donc pas un élément nouveau introduit dans leur relation à la suite de l'incarnation, mais bien la poursuite dans le temps de la relation éternelle qui unissait le Fils au Père dans les cieux. Dans les cieux comme sur la terre, le Fils était entièrement soumis à la volonté du Père. S'il en est bien ainsi, tout s'éclaire. Le Dieu-homme ne possédait aucune connaissance indépendamment de Dieu le Père, pas plus qu'il n'agissait pour son compte personnel. De même qu'il ne faisait pas tout ce qu'il aurait pu faire, mais seulement ce que le Père voulait qu'il fasse. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 53. Et de même, il ne connaissait pas de façon consciente tout ce qu'il aurait pu connaître, mais seulement ce que le Père voulait qu'il connût. Ce qu'il connaissait, comme tout ce qu'il faisait, était fonction de la volonté de son Père. Et c'est pourquoi, par exemple, si Jésus ignorait la date de son retour, ce n'était pas parce qu'il avait, au moment de son incarnation, renoncé au pouvoir de connaître toutes choses, mais parce que son Père ne voulait pas que sur cette terre, il connut cette date avant la passion. Calvin avait donc totalement raison lorsque il avait commenté ainsi le verset 32 de Saint Marc, chapitre 13. Et cette connaissance ne lui fut pas donnée tant que sa tâche médiatrice ne fut pas complètement accomplie, mais elle lui fut donnée après sa résurrection. Ainsi donc, si Jésus n'avait des choses qu'une connaissance limitée, s'il avait donc qu'une connaissance limitée des choses, ce n'était pas en raison de son incarnation, mais en raison de la volonté de son Père, à son égard pendant son séjour sur la terre. Donc, nous en arrivons ainsi à la conclusion suivante. D'un côté, il existe dans les évangiles un certain nombre de faits qui contredisent totalement la théorie de la kénose, et de l'autre, il n'existe dans les évangiles aucun fait qui ne devienne pas plus compréhensible dès que l'on abandonne cette théorie. Nous comprenons maintenant mieux ce que a impliqué pour le Fils de Dieu le fait de se dépouiller lui-même et de se faire pauvre. Cela a signifié pour lui abandonner sa gloire, la véritable kénose, restreindre volontairement sa puissance, accepter l'épreuve, l'isolement, les mauvais traitements, la méchanceté, l'incompréhension et finalement la mort. Donc une mort dont l'agonie, plus spirituelle encore que physique, a été telle que sa seule perspective faillit l'écraser. Saint Luc, chapitre 12, verset 50, c'est le récit de Gethsémané, mais cela a signifié aussi aimer jusqu'à l'extrême des hommes qui ne méritaient aucun aucun amour, afin que par sa pauvreté, ils fussent enrichis. Noël, c'est l'annonce d'un espoir pour une humanité déchue, un espoir de pardon, un espoir de paix avec Dieu, un espoir de gloire, parce que conformément à la volonté du Père, Jésus-Christ s'est fait pauvre, il est né dans une étable, et cela pour pouvoir, 30 ans plus tard, être mis sur la croix. C'est le message le plus merveilleux que le monde ait jamais entendu et entendra jamais. Nous parlons facilement de l'esprit de Noël, n'évoquant par là le plus souvent guère plus que quelques réjouissances familiales. Mais il est évidemment maintenant, après ce que nous venons de dire, que cette expression devrait être terriblement plus lourde de sens. Oui, elle devrait faire naître dans le cœur des hommes le désir d'imiter celui qui, pour nous, s'est fait pauvre lors du premier Noël. Et l'esprit de Noël lui-même devrait ainsi être le signe distinctif de tout chrétien tout au long de l'année. Quelle honte et quel déshonneur pour nous de devoir constater aujourd'hui que tant de chrétiens, je serai même plus précis, tant de chrétiens parmi les plus authentiques et les plus orthodoxes vivent dans ce monde animé du même esprit que celui du prêtre et du lévite de la parabole. Ils voient tout autour d'eux les besoins des hommes, mais après quelques vœux pieux et peut-être une petite prière pour que Dieu rencontre ces malheureux, ils détournent les yeux et passent outre. Ce n'est pas là agir selon l'esprit de Noël, pas du tout. Et ce n'est pas non plus l'esprit de Noël qui pousse de nombreux chrétiens, hélas, à limiter leur ambition à fonder un beau foyer chrétien bourgeois, à s'entourer de bons amis chrétiens bourgeois, à élever gentiment leurs enfants comme il sied à de bons chrétiens bourgeois et à laisser se débrouiller comme ils le peuvent ceux, chrétiens ou non, qui appartiennent aux classes inférieures de la société. Les snobs chrétiens ne sauraient rayonner de l'esprit de Noël, car l'esprit de Noël est l'esprit de ceux qui, comme leur maître, passent toute leur vie à se dépouiller et à s'appauvrir, dépensant et se dépensant pour enrichir leur prochain, offrant leur temps et ne ménageant ni leur peine ni leurs soins pour faire du bien aux autres et pas seulement à leurs amis. Ceux qui témoignent d'un tel esprit ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient être. Si Dieu, dans sa grâce, nous revivifie une des œuvres qu'il accomplira certainement, sera de susciter en nous, écoutez bien, et dans nos cœurs et dans nos vies, davantage de cet esprit-là. Et si nous désirons personnellement être renouvelés spirituellement, il est une chose que nous devrions faire, c'est de chercher à développer en nous cet esprit. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Psaume 119, verset 32. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit, chante l'Église. Mais qu'est-ce que la louange qui s'élève vers un seul Dieu en trois personnes, le Dieu qu'adorent les chrétiens, le Yahvé trinitaire. Ce mystère de la Trinité qui nous a été révélé est au cœur de la foi chrétienne. Trinité vient du mot latin trinitas, qui signifie tripartite. Le christianisme tout entier repose donc sur la doctrine de la Trinitas, sur le caractère tripartite de Dieu, sur l'affirmation que Dieu est Dieu en trois personnes. Le caractère mystérieux de cette doctrine de la Trinité a souvent fait qu'on l'a reléguée au magasin des accessoires, comme s'il s'agissait là de quelque chose dont on pouvait aisément se passer, et notre façon de faire semble bien refléter cet état d'esprit. La liturgie anglicane, elle stipule que le symbole d'ananas, qui est l'énoncé classique de cette doctrine, c'est donc le symbole d'Athanase qui est l'énoncé classique de cette doctrine. Et cela doit être récité chaque année en 13 occasions, et cela au cours du culte public, mais on aurait peine aujourd'hui à en trouver une seule où il soit cité. La plupart des pasteurs anglicans ne prêchent jamais sur ce thème, sauf peut-être le dimanche de la Trinité. Et les pasteurs non-conformistes qui n'observent pas le jour de la Trinité n'en parlent pas du tout. On se demande ce que dirait l'apôtre Jean de cette façon de faire, lui pour qui la doctrine de la Trinité constituait un élément essentiel de l'Évangile. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, dès les premières phrases de l'Évangile, Jean aborde le mystère que constitue la présence de deux personnes distinctes au sein de l'unité de Dieu. Nous touchons là, sans aucun doute, à la partie la plus mystérieuse et la plus profonde de la théologie. Jean, pourtant, n'hésite pas un instant à nous y conduire d'emblée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était une personne qui vivait en communion avec Dieu, et la parole était personnellement et éternellement de nature divine. Saint Jean poursuit en nous disant que cette parole était aussi le Fils unique de Dieu. Si Jean expose dès le début de son évangile le mystère d'un Dieu en deux personnes, c'est parce qu'il est conscient que nul ne peut comprendre quoi que ce soit aux paroles et aux actes de Jésus de Nazareth s'il n'a pas d'abord compris que Jésus-Christ est en réalité Dieu le Fils. Avez-vous bien entendu? Je répète donc, il a bien dit qu'en réalité, c'est Dieu le Fils. Mais ce n'est pas tout ce que Jean désire nous apprendre sur la pluralité de personnes que l'on découvre au sein de la divinité. En effet, lorsqu'il nous rapporte le dernier entretien du Seigneur avec ses disciples, il nous dit que le Sauveur, après leur avoir expliqué qu'il allait leur préparer une place dans la maison de son Père, leur promit la venue d'un autre Consolateur. Saint Jean, chapitre 14, verset 16. Retenons bien cette expression riche de sens. elle fait allusion à une personne et à une personne remarquable, un consolateur, oui, un consolateur. La très grande variété de traductions que l'on a données de ce terme, conseiller, auxiliaire, avocat et ami, cela témoigne de la richesse de sa signification. Donc ce terme suggère tout à la fois les notions d'encouragement, de soutien, d'assistance, de sollicitude, de responsabilité assumée pour le bien de quelqu'un. Un autre consolateur, bien sûr, puisque Jésus-Christ était le premier et que la tâche de ce nouveau venu devait se situer dans le prolongement du ministère du Christ. Pour bien comprendre ce que notre Seigneur entendait par un autre consolateur, il nous faut donc nous souvenir de tout ce que Jésus-Christ lui-même a fait pour ses disciples au cours de ces 3 années de son propre ministère parmi eux, nous souvenir également de son amour et de sa sollicitude, de la patience avec laquelle il les enseignait et du souci qu'il avait de leur bonheur. Ce que le Christ voulait dire, en fait, c'est que cet autre consolateur prendrait soin d'eux exactement comme lui-même l'avait fait. Un remarquable personnage en vérité. Notre Seigneur poursuivit en leur donnant le nom de ce nouveau consolateur, l'Esprit, oui, le Saint-Esprit. Saint Jean, chapitre 14, verset 17 et le verset 26. Ce nom évoquait donc la divinité. Dans l'Ancien Testament, la Sainte Parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont deux expressions parallèles. La Parole de Dieu, c'est sa parole toute puissante. L'Esprit de Dieu, c'est son souffle tout-puissant. Les deux termes expriment son pouvoir en action. La voix et le souffle de Dieu sont cités ensemble dans le récit de la création. L'Esprit, le souffle de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, et cela fut. Genèse chapitre 1, verset 2. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de l'Esprit de sa bouche. Psaume chapitre 33, verset 6. Dans le prologue de son évangile, Saint Jean nous dit que la parole divine dont il parle est une personne. Notre Seigneur nous enseigne à son tour la même chose à propos de l'Esprit de Dieu qui est lui aussi une personne. Et il confirme ce qu'il a dit de la divinité de cet esprit en l'appelant Esprit Saint, comme il parlera plus loin du Père Saint. Donc, vous pouvez noter Saint Jean, chapitre 17, verset 11. On notera également le lien que le Christ établit entre la mission de l'Esprit Saint et la volonté et les desseins du Père et du Fils. À un endroit, il est dit que c'est le Père qui enverra l'Esprit Saint comme il avait envoyé le Fils. Saint Jean, chapitre 5, verset 23, etc. Donc, le Père enverra l'Esprit Saint en mon nom, dit le Seigneur, c'est-à-dire qu'il enverra l'Esprit Saint en tant que délégué du Christ, chargé d'exécuter la volonté du Christ et d'agir à sa place et avec son autorité. Saint Jean, chapitre 14, verset 26. De même que Jésus était venu au nom de son Père, selon Saint Jean, chapitre 5, verset 43, agissant en tant que représentant du Père, prononçant les paroles du Père, Saint Jean chapitre 12, verset 49, accomplissant les œuvres du Père, Saint Jean chapitre 10, verset 25, et chapitre 17, verset 12, et se conduisant sans cesse en fidèle témoin de celui qu'il l'avait envoyé. De même, l'Esprit viendrait au nom de Jésus-Christ pour travailler dans le monde en tant que représentant et témoin de Jésus-Christ. L'Esprit Saint procède para du Père, Saint Jean 15, verset 26, de la même façon que précédemment le Fils avait été envoyé du para-Père, Saint Jean chapitre 16, verset 27. Après avoir envoyé son Fils éternel dans le monde, le Père le rappelle maintenant dans la gloire et envoie le Saint-Esprit pour prendre sa place. Mais ceci n'est qu'un aspect des choses. Ailleurs, il est dit que c'est le Fils qui enverra l'Esprit Saint de la part du Père. Saint Jean chapitre 15, verset 26. Comme le Père a envoyé le Fils dans le monde, le Fils enverra l'Esprit Saint dans le monde. Saint Jean chapitre 16, verset 7. L'Esprit Saint est donc envoyé aussi bien par le Fils que par le Père. Les relations entre ces trois personnes s'établissent donc comme suit. Notez bien, premièrement, le Fils est soumis au Père parce qu'il est envoyé par le Père et au nom du Père. Deuxièmement, l'Esprit Saint est soumis au Père car il est envoyé par le Père au nom du Fils. Et troisièmement, l'Esprit Saint est soumis au Fils comme au Père car il est envoyé tant par le Fils que par le Père. Saint Jean, chapitre 20, verset 22. Je répète, l'Esprit Saint est soumis au Fils comme au Père car il est envoyé tant par le Fils que par le Père. Saint Jean 20, verset 22. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean nous rapporte par conséquent ce que le Seigneur lui a révélé concernant les mystères de la Trinité, trois personnes et un seul Dieu, le Fils accomplissant la volonté du Père et l'Esprit Saint accomplissant la volonté du Père et du Fils. Ce qui est mis en relief, c'est que l'Esprit Saint qui a été donné aux disciples du Christ afin de demeurer éternellement avec eux. Saint Jean chapitre 14 verset 16. Là était donc enfin, c'est, on peut dire, tout à la place du Christ, le ministère de consolation. Je répète, là était, afin qu'il exerce à la place du Christ le ministère de consolation. Alors, si donc le ministère du Christ consolateur a été considérable, eh bien celui du Saint-Esprit consolateur également ne peut pas l'être moins que cela. Si l'œuvre accomplie par le Christ a été pour l'Église d'une grande importance, celle de l'Esprit doit l'être également. Mais ce n'est pas du tout l'impression que l'on retire d'une lecture attentive de l'histoire de l'Église ou d'un examen en profondeur de l'Église d'aujourd'hui. Je dis bien d'aujourd'hui. Il est absolument effarant de constater à quel point les données bibliques sont traitées différemment selon qu'elles portent sur la deuxième ou sur la troisième personne de la Trinité. La personne et l'œuvre du Christ ont toujours été et demeurent des thèmes constamment étudiés dans l'Église alors que la personne et l'œuvre du Saint-Esprit sont systématiquement ignorées. Donc la doctrine du Saint-Esprit est la cendrillon, si on peut bien dire ainsi, des doctrines chrétiennes. Très rares sont donc ceux qui semblent s'y intéresser. Il existe beaucoup de livres excellents consacrés à la personne et à l'œuvre du Christ, mais on peut pratiquement compter sur les doigts d'une seule main, je dis bien d'une seule main, de le nombre des livres consacrés à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit qui méritent pourtant d'être lus. Les chrétiens n'ignorent rien de l'œuvre du Christ, ils savent qu'il a racheté les hommes par sa mort expiatoire, et oui, même s'ils ne sont pas d'accord sur ce que ce fait implique exactement. Mais le chrétien moyen est en pleine confusion quand il s'agit de dire en quoi consiste l'œuvre du Saint-Esprit. Pour certains, il semble que l'Esprit du Christ s'apparente à l'Esprit de Noël. Il s'agirait d'une vague incitation à la bienveillance et à la religiosité. Pour d'autres, c'est l'Esprit qui inspire les convictions morales des croyants comme Gandhi, par exemple, ou le mysticisme théosophe d'un Rudolf Steiner. Mais pour la majorité des gens, il semble que l'esprit soit un sujet auquel ils n'ont jamais pensé. Quant à ce que pourrait être son action, ils n'en ont pas la moindre idée. Ils sont pratiquement dans la même situation que ses disciples rencontrés par l'apôtre Paul à Éphèse et qui disaient « Oh là là, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit » Actes chapitre 19, verset 2. Il est extraordinaire de penser que ceux qui professent un tel intérêt pour le Christ connaissent si peu de choses sur le Saint-Esprit et s'en soucient si peu. Les chrétiens se rendent bien compte de tout ce qui serait changé s'il devait s'avérer que, en fin de compte, il n'y a jamais eu ni incarnation ni expiation. Ils savent que, n'ayant plus de sauveur, ils seraient perdus. Mais nombreux sont les chrétiens qui n'ont absolument aucune idée de ce qui serait changé s'il n'y avait pas le Saint-Esprit dans le monde et qui ignorent totalement si, dans ce cas, l'Église ou eux-mêmes auraient à en souffrir. De toute évidence, il y a là quelque chose qui ne va pas. Qu'avons-nous à dire pour justifier la négligence que nous manifestons envers celui que le Christ nous a envoyé? Comment pouvons-nous dire, sans faire preuve de mauvaise foi, que nous honorons le Christ lorsque nous négligeons et par là même déshonorons celui que le Christ nous a envoyé pour être son représentant, pour reprendre, ou plutôt pour prendre sa place et veiller sur nous en son nom? Ne devrions-nous pas nous préoccuper du Saint-Esprit beaucoup plus que nous le faisons parfois dans nos églises? Mais l'action du Saint-Esprit, je vous le demande, est-elle si importante que cela? Importante? Et comment donc? Mais sans l'action du Saint-Esprit, écoutez bien, il n'y aurait ni évangile, ni foi, ni église, ni christianisme dans le monde. Reprenons tout d'abord, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait ni évangile, ni Nouveau Testament. Lorsque le Christ a quitté ce monde, il a chargé ses disciples de poursuivre son œuvre, il leur a confié la responsabilité d'aller dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Vous rendrez témoignage de moi, leur commanda-t-il dans la chambre haute ? Saint Jean chapitre 15, verset 27. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce furent là les dernières paroles qu'il leur adressa sur le mont des Oliviers avant son ascension. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Telle fut donc la tâche qu'il leur assigna. Mais quel genre de témoin allait-il donc être ? Ils n'avaient jamais été de bons élèves. Ils n'avaient jamais été capables de bien comprendre ce que le Christ leur disait, et pendant tout le temps de son ministère terrestre, ils n'avaient pas réussi à saisir le véritable sens de son enseignement. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'ils fissent mieux, qu'ils puissent faire mieux ? Car maintenant que leur maître n'était plus là, n'était-il pas pratiquement certain qu'avec la meilleure volonté du monde, ils allaient bien vite mélanger inextricablement la vérité de l'Évangile à quantité d'idées fausses de leur cru, de leurs propres idées, dictées d'ailleurs par de bons sentiments, pourquoi pas, réduisant ainsi rapidement leur témoignage à un enchevêtrement d'idées fausses et dénaturées dont il n'y aurait plus rien à tirer. Eh bien non, chers amis, il n'en fut pas ainsi. Pourquoi ? Parce que le Christ leur a envoyé le Saint-Esprit pour leur enseigner toute la vérité et les préserver de l'erreur, pour leur rappeler ce qui leur avait déjà été enseigné et pour leur révéler ce que le Seigneur voulait encore qu'ils apprennent. Le Consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint Jean, chapitre 14, verset 26. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez absolument pas les comprendre maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est-à-dire qu'il leur fera connaître tout ce que le Christ lui demandera de leur dire, tout comme le Christ leur a fait connaître tout ce que le Père lui avait demandé de leur dire. Saint Jean, chapitre 12, verset 49, et le chapitre 17, verset 8 et 14. Et il vous annoncera, oui, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Saint Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Dans ce sens, il rendra témoignage de moi à vous, mes disciples, vers qui je l'envoie. Et ainsi, vous rendrez témoignage. Saint Jean 15, verset 26. La promesse de Jésus-Christ était la suivante. Enseignés par l'Esprit Saint, ses premiers disciples seraient rendus capables de parler comme le Christ l'aurait fait. Alors, semblables aux prophètes de l'Ancien Testament, qui pouvaient commencer leur message par « Ainsi parle l'Éternel », les apôtres du Nouveau Testament pourraient avec autant de vérité dire de leur enseignement oral ou écrit « Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ ». Et c'est ce qui arriva. L'Esprit Saint est venu sur les disciples et a été auprès d'eux le témoin du Christ et de son salut selon la promesse qui leur avait été faite, évoquant le caractère glorieux de ce salut, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et l'apôtre Paul a écrit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit Saint. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa divine grâce. Et nous en parlons, il aurait pu ajouter, nous l'écrivons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 13. Donc, l'Esprit Saint rendait témoignage aux apôtres en leur révélant toute la vérité et en les inspirant afin qu'ils la communiquent avec fidélité et exactitude. C'est ce qui permet la constitution des évangiles et du Nouveau Testament que, sans le Saint-Esprit, le monde n'aurait jamais possédé. Mais ce n'est pas tout. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait ni foi, ni nouvelle naissance. En un mot, il n'y aurait pas de chrétien. La lumière de l'Évangile rayonne, mais le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Et les aveugles ne réagissent pas aux stimuli de la lumière. Comme Christ le disait à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, selon Saint Jean, chapitre 3, versets 3 et 5. Et Christ, parlant en son nom et au nom de ses disciples à Nicodème et au milieu religieux irrégénéré, il faut bien le dire, auquel celui-ci appartenait, continue en expliquant que s'il n'est pas régénéré, l'homme tombe fatalement dans l'incrédulité. Vous ne recevez pas notre témoignage, Jean 3, 11. L'Évangile n'a aucune prise sur eux et l'incrédulité les tient solidement. Que faut-il en conclure, chers amis? Que c'est perdre son temps que de prêcher l'Évangile et qu'il vaut mieux abandonner cette entreprise désespérée parce que vouée à l'échec. Non et non, parce que l'Esprit Saint, chers amis, elle demeure avec l'Église pour témoigner du Christ. Nous l'avons vu, c'est en révélant et en inspirant que l'Esprit Saint a d'abord rendu témoignage aux apôtres, mais depuis, c'est en les illuminant que l'Esprit témoigne du Christ au reste des hommes, ouvrant les yeux des aveugles, redonnant à chacun une vision spirituelle des choses et rendant les pécheurs capables de comprendre que l'Évangile est vraiment la vérité qui nous vient de Dieu, que l'Écriture sainte est vraiment la parole de Dieu et que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Quand il, l'Esprit Saint, sera venu, nous promet le Seigneur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Saint Jean 16, verset 7. N'allons pas nous imaginer que nous parviendrons à prouver la vérité du christianisme. Seul en est capable le Saint-Esprit qui, par son action toute puissante, oui, je répète, par son action toute puissante, peut transformer tous les cœurs, n'importe lesquels, même les plus endurcis. Et c'est là, souveraine prérogative de l'Esprit du Christ que de convaincre les consciences de la vérité de l'Évangile du Christ. Et les témoins du Christ doivent apprendre à fonder leur espoir de succès, non pas sur une habile présentation de la vérité, mais sur une intervention de l'Esprit Saint qui démontrera cette vérité avec puissance. L'apôtre Paul disait, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, et cela afin que votre foi puisse être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est parce que l'Esprit témoigne de la sorte que les hommes viennent à la foi lorsque l'Évangile est prêché, mais sans l'Esprit Saint, il n'y aurait pas dans ce monde un seul chrétien, et c'est vrai. Rendons-nous honneur, oui, rendons honneur au Saint-Esprit en reconnaissant son œuvre et en comptant sur elle. Ou le traitons-nous avec une négligence qui déshonore non seulement l'Esprit lui-même, mais aussi le Seigneur qui nous l'a envoyé? Sur le plan de notre foi, reconnaissons-nous l'autorité de la Bible, celle de l'Ancien Testament prophétique et celle du Nouveau Testament apostolique qu'il a lui-même inspirée? La lisons-nous et l'écoutons-nous avec le respect dû à la sainte parole de Dieu et avec l'esprit bien disposé qu'elle réclame? Sinon alors, nous déshonorons le Saint-Esprit. Et dans la vie de tous les jours, nous soumettons-nous à l'autorité de la Bible et vivons-nous selon ce qu'elle enseigne, quoi que les hommes puissent en dire, reconnaissant que la sainte parole de Dieu ne peut être que vraie et que ce que Dieu a dit, il le pense véritablement et s'y tient, et ceci aujourd'hui comme autrefois. Alléluia. Sinon alors, nous déshonorons le Saint-Esprit qui nous a fait don de la Bible. Et lorsque nous rendons témoignage, nous souvenons-nous que seul le Saint-Esprit peut, par son témoignage authentique et authentifié le nôtre, nous attendons-nous, chers amis, à lui pour qu'il puisse le faire. Avons-nous cette confiance en lui qu'il le fera? Et en donnons-nous la preuve en ajoutant ou en rejetant surtout les rudiments de l'intelligence froide, comme disait l'apôtre Paul. Sinon alors, nous déshonorons le Saint-Esprit. Comment ne pas voir que l'actuelle stérilité de la vie de l'Église est un jugement de Dieu, que vous le croyez ou pas, une punition qu'il nous inflige pour avoir déshonoré le Saint-Esprit? Et dans ce cas-là, n'espérons pas que ce jugement s'éloigne tant que nous n'aurons pas appris à honorer le Saint-Esprit dans nos pensées, dans nos prières et dans notre vie. Il sera mon témoin. N'oubliez jamais cela, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et chers amis, je crois que il est inutile de faire une longue prière. Je voudrais simplement dire ceci. Vous avez pu constater que j'ai demandé que l'Esprit Saint s'empare de ma bouche et de mon être pour vous annoncer ce thème un peu compliqué tout de même, mais qui est plein de sens, de réalité, et j'aurais jamais pu le faire par moi-même, ça je peux vous le dire franchement, car si vous saviez que j'ai eu seulement 4 ans d'école primaire, une longue histoire est incroyable, et c'est tout uniquement le Seigneur qui a eu la bonté et la grâce et la gentillesse et l'amour de me donner un jour une sainte épouse, et c'est grâce à elle que j'ai pu apprendre à mieux parler le français et à mieux m'exprimer, et surtout à aimer le Seigneur et sa sainte parole. Et c'est grâce à cette sainte épouse qui est morte, hélas, maintenant il y a plus de 20 ans, par négligence médicale. Mais vous avez certainement compris que c'est le Saint-Esprit qui est intervenu pendant mon exposé. Et donc, je vous demande simplement, à l'occasion, de réécouter ce message, cette étude, et de prier sincèrement, en vous laissant guider totalement par l'Esprit Saint. N'ayez pas peur et ayez confiance, car ça se fera. À bientôt à nouveau, demain, Dieu voulant, pour la suite de cette longue et importante série. Au revoir, mes très chers amis.